Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Biotope. Un programme soutenu par BioValley.
Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue dans l'émission Biotope chargée de décrypter la BioValley. Aujourd'hui, nous partons en direction de la communauté de communes du Crétois. Appartenant aux communautés de communes dont on entend parler de plus en plus de leur action et de leurs compétences, elles prennent de plus en plus les compétences de maître d'œuvre ou maître d'ouvrage pour développer des équipements utiles et attractifs pour la préservation ou la nouvelle installation de populations. Certains de ces équipements sont inscrits sur la communauté de communes du Crétois depuis une petite dizaine d'années pour certains, comme la crèche multi-accueil. D'autres sont plus récents, comme le nouveau gymnase. Sur ces deux bâtiments, c'est au départ une mobilisation citoyenne qui en est à l'origine. Une démarche active qui donne naissance à des équipements qui remportent un succès démesuré. Arrêtons-nous un moment et regardons ces deux réalisations. La crèche multi-accueil de la communauté de communes du Crétois qui nous est présentée par Denis Benoît, vice-président de la communauté de communes du Crétois, Noël Poulier, directrice de la crèche multi-accueil.
Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Je suis Noël Roulier, je suis directrice du multi-accueil depuis l'ouverture, donc en septembre 2003, et j'avais accompagné l'association dans les démarches initiales avant d'arriver à ce projet-là, sur le fonctionnement d'un multi-accueil.
Denis Benoît, je suis conseiller municipal à Oust et vice-président de la communauté de communes du Crétois, actuellement. À l'époque, lorsque le projet a démarré, donc en 98-99, j'étais premier adjoint de Joël Mottet, qui était maire et président de la communauté de communes à l'époque.
L'association des Tchoupinets a été créée le 25 mai 1998. Et donc, une fois que l'association s'est constituée, ils ont commencé les démarches de rencontrer les élus des différentes communes, donc au départ sur toute la vallée de la Gervanne. Puis comme il n'y avait pas beaucoup de réponses favorables et que la communauté de communes du Crétois a été partante pour suivre le projet s'est recentré sur la communauté de communes.
Alors l'objet de l'association Les Tchoupinets était de signaler aux politiques qu'il y avait une carence en termes d'accueil autour de la petite enfance, ou bien est-ce que c'était au départ une association parentale qui organisait un petit peu à sa sauce l'accueil de la petite enfance?
Alors, c'était une association, il y avait une association qui s'appelait les Pitchounets et qui gérait une halte-garderie
sur Cré.
Et puis le mode de gestion a été modifié, donc c'est devenu une gestion municipale. Donc les parents n'avaient plus leur place de gestionnaire, etc. Et ces parents-là, en fait, ils trouvaient plus vraiment leur place dans le lieu d'accueil municipal. Donc ils ont souhaité œuvrer pour réouvrir un lieu d'accueil à gestion associative parentale. Et donc c'est comme ça que sont nés les Tchoupinets. Donc ils ont effectivement fait, donc pour commencer, ils ont fait une première étude de besoin en comptant le nombre d'enfants. Ils ont fait des questionnaires destinés aux familles, etc. Donc bon, tant qu'il n'y a rien qui existe, les familles disent ben, peut-être qu'on en aura besoin, mais peut-être pas. Enfin, tant qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est difficile de se projeter. Donc voilà, c'est vrai que sur la vallée complète de la Gervanne, ça faisait beaucoup de communes, donc c'était compliqué de tout gérer en même temps. Et donc après, quand la communauté de communes du Crétois a donné son accord, il y a une étude de besoin qui a été refaite. Et où là, ça paraissait pouvoir tourner, donc voilà.
Parce que l'une des compétences des communautés de communes, c'est de s'occuper de la compétence petite enfance.
La commune d'Oust s'est retournée, entre guillemets, vers la communauté de communes. C'est écoulé 5 ans entre la création de l'association et l'ouverture de la crèche.
2003. Alors 5 ans qui n'ont pas été...
Et les parents peut-être de l'époque étaient mobilisés pour la création de cette structure. Ben, ils n'avaient peut-être plus d'enfants
à faire garder. Ouais. Ils n'ont pas mis leurs enfants.
Ils ont œuvré pour les autres.
Donc 5 ans qui n'ont pas été de tout repos, j'imagine, puisqu'il a fallu effectivement définir qui était partant pour ce projet-là, définir aussi le budget qu'il allait falloir établir, sachant qu'on était quand même dans une période où ça faisait partie des premières structures, peut-être, en éco-construction. On était un peu dans l'expérimental quand même, non ?
Sur la construction, à fond.
On savait qu'il y avait un surcoût d'une dizaine de pourcents en termes de budget d'investissement pour la construction d'un tel équipement par rapport à une mise en œuvre classique. Voilà. Il y avait à l'époque, si je me souviens bien, une aide de la région pour suppléer à ce surinvestissement. Et après, les élus qui étaient au conseil communautaire, je ne faisais pas partie du conseil communautaire à l'époque, les élus ont suivi. Voilà. C'était avant Biovallée.
Ah bah oui.
Bien avant.
Voilà, c'est 5 ans écoulés, la première pierre est posée, tout se passe comme vous l'attendiez, c'est-à-dire en termes de chantier, de délai. Tout à l'heure, vous parliez de votre participation.
Noël, elle a suivi les chantiers.
Noël, donc avec les bottes pour suivre l'architecte.
Il y a toujours des aléas dans les chantiers.
Bien sûr.
Oui, il y a toujours des aléas, et puis là, il y a des techniques qui étaient nouvelles. Par exemple, l'isolation du tipi. Donc le tipi est isolé en béton de chanvre pour avoir de l'inertie. Et en fait, il n'y avait qu'une seule entreprise en France qui savait faire le béton de chanvre. Donc l'entreprise, elle a proposé, soit eux, ils venaient et ils faisaient le béton de chanvre et ils faisaient toute l'isolation du tipi, soit ils formaient une entreprise qui était volontaire pour apprendre à faire le béton de chanvre. Du coup, ils seraient deux, ça serait plus facile. Donc c'est cette option-là qui a été prise. Et donc, ça me fait marrer parce que j'entends l'architecte qui raconte l'histoire. Et donc ils ont coffré les gros panneaux de la taille comme ça en bas dans le jardin. Et après, ils les ont montés. Mais, donc, ils ont attendu, un week-end, je crois, ils ont monté. Et après, quand les charpentiers sont arrivés avec leur marteau et leur clou, ils ont commencé à planter les planches qui sont en traverse. Et tout le béton de chanvre s'est affaissé en bas. Donc, c'était à l'époque des vacances de Noël. Donc, tout le monde est parti en vacances. Ils ont fermé le chantier, un peu tous dépités. Et en fait, l'architecte, elle a retravaillé, elle s'est renseignée entre-temps. Et c'est juste que le béton de chanvre, c'est beaucoup plus long à sécher. Et comme en plus c'était en hiver, il fallait encore plus de temps. Donc les panneaux qui avaient été coffrés avant la fermeture du chantier, quand ils ont repris, ça avait séché, donc c'était bon. Et après, ils ont vissé, et pas avec des gros marteaux et des gros clous, voilà.
Donc une des étapes, voilà, la découverte de ce genre de projet un peu école presque pour, voilà, pour les artisans. De la région.
Intéressant là, dans l'exemple que vient de donner Noël, c'est ce transfert de connaissances et de compétences d'une entreprise à une autre. Je trouve ça, c'est aussi dans la démarche du Biovallée.
Oui, complètement. Aujourd'hui, on.
De formation.
Et à la fois, c'est ancestral, parce que c'est une espèce de compagnonnage finalement.
C'est du compagnonnage.
La crèche ouvre ses portes avec un peu de retard.
6 mois.
6 mois, ça va, c'est honnête. Et du coup, j'imagine qu'il y a une affluence de parents, puisque en termes de multi-accueil...
Pas au départ.
Pas au départ.
Parce que d'une part, je pense que les gens de la communauté de communes, ils voyaient le chantier dans tous les sens du terme. Donc ils disaient, on va pas compter dessus parce qu'on ne sait pas quand ça sera fini. Et puis par contre, donc on a ouvert en septembre. Et à l'époque, on avait même accueilli des enfants qui n'étaient pas de la communauté de communes. Parce que de la communauté de communes, on avait peu de demandes. Et ça a été calme pendant 3 mois. Et à partir du mois de janvier 2004, ça y est, la crèche a tourné à plein régime. Avec des demandes énormes, des refus. Et voilà, en 3 mois, c'était plein. Et puis, il fallait faire face à toutes ces demandes.
Nous avons donc une technicienne de la petite enfance qui peut nous dire un petit peu qu'est-ce que ça apporte de travailler dans un bâtiment donc, qui a été réfléchi donc, pour, avec la politique centrale, qui était de faire du développement durable. Est-ce que ça a une incidence sur sa manière de travailler ?
Alors, je ne sais pas si c'est vraiment la construction du bâtiment qui a de l'incidence, ou plutôt la façon dont ça s'est passé, et où finalement l'association, la communauté de communes et l'architecte ont réussi à s'entendre, et au final on est dans un bâtiment qui est harmonieux. Et pendant pas mal de temps, moi je disais que c'était le bâtiment qui faisait qu'on se sentait bien ici, et quand c'est l'architecte qui faisait visiter, parce qu'au départ il y avait beaucoup de visites, elle disait que c'était parce que l'association avait une certaine philosophie, parce que voilà, les professionnels mettaient en œuvre un certain nombre de choses. Et au bout d'un moment, il a fallu qu'on se mette d'accord. Moi, je ne pouvais pas dire que c'était l'architecture et elle que c'était nous. Enfin, voilà. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est le fait, cette entente qu'il y a pu y avoir. Et pour moi, ça se ressent dans le bâtiment. C'est-à-dire que le bâtiment, il correspond vraiment à ce qu'on voulait mettre en place à l'intérieur. Après, peut-être que si ça avait été des moellons basiques, ça aurait peut-être eu le même résultat si ça avait été fait dans la même façon.
La démarche a eu beaucoup d'importance.
Voilà. Donc, le fait que c'était expérimental, du coup, tout le monde s'est d'autant plus investi, je pense. Donc, ça a aussi favorisé. Après, aujourd'hui, par exemple, sur le confort d'été, c'est vrai que c'est magique. C'est vraiment performant, quoi. Il suffit d'ouvrir les trappes et les fenêtres aux bons horaires, de fermer aussi aux bons horaires, de penser à programmer l'arrosage, etc. Mais une fois que tout ça s'est fait, l'été, on est vraiment bien dans la crèche, on ne ressent pas du tout la chaleur. Après, l'hiver, donc il y a le sas d'entrée qui fait tampon. Et là, du coup, l'hiver, il fait un peu froid, donc on est encore en train de chercher des solutions, 9 ans après. Mais on va trouver.
La communauté de communes, quelle est la place elle tient une place au conseil d'administration de l'association ?
Oui, donc la communauté de communes est représentée au conseil d'administration, mais au-delà d'une place... On a d'une place d'un siège où on se dit oh là là, l'élu il va venir, il va encore nous dire qu'on a trop de projets, que si, que ça. C'est vraiment le partenariat qu'il y a eu du début. Il existe toujours, c'est-à-dire que voilà, sinon on veut se lancer dans un projet, on peut les appeler ou on fait un mail en disant ben voilà, nous on voudrait ça, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vous paraît réalisable? Ou inversement, la communauté de communes qui a une question sur la petite enfance ou qui appelle en disant bon ben vous, qu'est-ce que vous pouvez proposer, comment. Et enfin, je pense, je ne peux pas parler au nom des élus, mais en tout cas, du coup, c'est vraiment un projet qui est porté communément.
Toujours porté. Ouais. De la même façon, toujours à soutenir les parents volontaires et à s'investir dans la gestion d'une structure comme celle-ci. Alors, pas forcément évident pour les parents.
Non, j'imagine que ça doit faire un peu peur, parce que ça représente quel budget annuel
Entre 170 000 et 180 000 euros.
Voilà, donc ça commence à être une grosse association dans laquelle c'est pas évident de s'investir quand on est parent, parce qu'on n'a pas forcément l'expérience d'association aussi importante, puis qui engage beaucoup de responsabilités, puisqu'il y a combien de salariés ?
Il y a 7 salariés. Et il y a eu aussi la gestion des fonds publics. Donc c'est quand même important, puisqu'il y a des subventions conséquentes, il y a une participation de la caisse d'allocation familiale. Donc il y a un agrément qui est imposé par le conseil général, par les services de PMI qu'il faut respecter. Donc là, depuis l'ouverture, on travaille plus ou moins suivant les périodes, mais vraiment sur la formalisation. Donc en fait, à l'origine, mon poste, c'était un poste de coordination, par exemple. Et en 2007, c'est devenu un poste de direction, avec vraiment la gestion de tout ce qui est... sur le terrain. Après, donc, le gestionnaire prend les décisions, les orientations politiques, et toute la mise en œuvre, c'est délégué à la direction.
Si on élargit un petit peu notre angle d'horizon, vous pensez que ce genre de projet a essaimé d'autres idées de structure de même type ? Ou bien est-ce que les municipalités ou les communautés de communes sont plus justement dans de la réhabilitation de bâtiments qui sont déjà sur pied.
Je sais pas. En tout cas, il y a eu pas mal de visites.
Et il y en a
de
toujours.
Il y en a toujours.
De
collectivités.
Entre autres.
D'accord. Donc Dromoise, au niveau national.
Régional.
Après, l'architecte, le cabinet d'architecture qui a fait ce bâtiment-là. Enfin, moi, je suis toujours en lien avec l'architecte. Et quand elle prévoit de faire un projet, des fois elle nous demande si les élus peuvent venir ou les professionnels. Voilà, donc ça continue. Moi je pense qu'il y en a de plus en plus parce que bah, un bâtiment à basse consommation d'énergie, c'est quand même intelligent. Voilà. Dans la conjoncture où on est, ça paraît compliqué de se dire on va faire un bâtiment qui va consommer plein d'énergie. Enfin, je sais pas, ça va nous venir à l'idée quoi.
Biotop.
D'horizon continue avec le gymnase de la CCC qui nous a permis de rencontrer Gilles Magnon, président de la CCC, maire de Piégros-Laclastre, Denis Benoît, vice-président de la CCC et l'architecte Roland Schmitt. Il nous parle de l'histoire d'un projet, de l'engagement citoyen dans une démarche active qui a donné naissance à ce bel équipement.
Je m'appelle Roland Schmitt, je suis architecte à Cré depuis maintenant 35 ans bientôt, et nous travaillons surtout dans le domaine du bâtiment public.
Denis Benoît, conseiller municipal à Oust-sur-Scie et vice-président de la communauté de communes du Crétois, et plus particulièrement en charge du dossier gymnase.
Alors vous allez peut-être pouvoir, Denis, si vous le voulez bien, nous parler un petit peu de ce qui a engagé la communauté de communes dans cette idée de construire ce gymnase dans lequel on se trouve actuellement, un gymnase hors du commun.
Hors du commun, je ne dirais pas ça, mais en tout cas, c'est un gymnase qui se retrouve ici, en pleine campagne. Voilà. Et ce gymnase, le projet de ce gymnase est parti d'un besoin tout à fait local d'un club de basket, donc de Piégros-Laclastre, qui était le dernier club de Drôme-Ardèche à ne pas avoir une structure couverte pour pouvoir s'entraîner et faire les matchs. Donc voilà. Et donc cela, c'était dans le mandat précédent. Donc le besoin exprimé, plus un autre besoin exprimé par les écoles de Piégros-Laclastre et de Mirabel et Blacon, donc qui sont en RPI, d'avoir une structure couverte pour pouvoir faire l'activité physique.
Voilà. Ouais, donc finalement, ça représente quand même, au final, donc une association, et puis donc une je ne vais pas dire une pression, mais quand même trois établissements scolaires qui
deux établissements scolaires
qui se rapprochent,
qui ont exprimé des besoins dans ce sens-là. Voilà.
Pas simple quand on est élu.
Une petite communauté de communes avec un petit budget, d'arriver à réaliser un équipement comme celui-ci, d'1,5 million d'investissements hors taxes,
Oui, c'est pas simple. Il faut trouver des financements. Et on a eu la chance d'avoir d'être aux environs de 70% d'aide publique.
Alors ça regroupe quoi ces 70%?
D'aide publique, c'est l'État, la région et une grosse part aussi le département.
D'ailleurs, un petit mot sur le déroulement, parce que, bien entendu, il ne suffit pas de claquer dans les doigts pour qu'un projet comme ça se réalise, parce que c'est une longue histoire, avec plusieurs hypothèses d'emplacement, parce que ça intéresse trois communes. Donc voilà, c'est ce site qui a été choisi. Et donc, une fois que cet emplacement a été choisi, il fallait trouver une équipe de maîtrise d'œuvre pour réaliser le bâtiment. On a commencé les premières études en 2007, et on a livré le bâtiment fin 2010, donc
oui. Ouverture en novembre 2010.
Il faut 3 ans et demi pour arriver depuis les premières esquisses, avec les permis. Donc vous savez que le bâtiment, il a 2 salles. La grande salle qui est destinée au sport collectif. Les deux peuvent fonctionner en parallèle, avec des vestiaires en commun, bien sûr, séparés. Et cette petite salle est plutôt pour les sports plus intimes, non collectifs. On ne peut pas jouer au ballon là-dedans, c'est trop petit. Genre, là, je crois qu'il y a du karaté à côté en ce moment.
De l'aïkido.
L'aïkido. Ça a été dans le programme. Vous savez que nous, pour faire un bâtiment, on a besoin d'un programme. On a besoin de savoir ce que le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le client, veut mettre dans son bâtiment. On ne peut pas le deviner. Bien sûr, un gymnase, on sait à peu près ce qu'il y a, mais quand même, il faut préciser ça. Donc ça, c'était dans le programme.
Déterminer les besoins.
Oui, voilà, c'est les besoins.
Alors ça, c'est pour l'aspect sportif. Maintenant, les exigences en termes de durabilité. Qui c'est qui impose ça? C'est le client, la commune, la communauté de communes qui dit, ben, moi, je voudrais mon bâtiment dans une dynamique de développement durable avec des écomatériaux, ou bien c'est la région, les financeurs qui peuvent avoir leurs exigences. Vous construisez, d'accord, mais avec... quel type de matériaux? Comment ça se passe?
Ça s'est fait un peu comme un accord entre nous, en discutant. Moi, j'avais déjà fait des bâtiments en structure bois.
En fonction de l'enveloppe aussi, j'imagine.
Ouais, bien sûr, oui, bien sûr, il faut toujours rester dans l'enveloppe. Ça se discute même pas. Exemple, ce fameux mur au sud, qui est donc un mur de 160 mètres carrés.
En photovoltaïque.
Photovoltaïque. Ça, vous voyez, au début... du projet, on n'en a pas encore parlé de ça, parce que ce n'était pas encore dans l'air, si je peux m'exprimer ainsi. C'est venu en cours de chantier, mais le gros œuvre était déjà fait quand on a décidé de faire ça. Donc on ne pouvait plus mettre ces panneaux sur le toit, puisque le toit était construit, parce qu'il y a une surcharge trop importante, on ne pouvait pas ajouter ça. Donc on s'est dit, tiens, on va essayer en façade, puisque j'ai une façade aveugle au sud, pour éviter que quand on joue au ballon, qu'on soit ébloui, hein, je ne peux pas faire de fenêtre, donc on a utilisé ça pour faire ces panneaux. Je ne sais pas si vous avez vu, on ne le voit pas de la route. C'était à l'époque quand on a fait le plus grand mur photovoltaïque de la Drôme. Et je crois que d'après les résultats, ça marche plutôt mieux que prévu. Voilà, donc ça c'est la partie qui se voit sur le bâtiment. Mais il y a d'autres éléments techniques qu'on a mis en œuvre, notamment au niveau des chauffages. Le chauffage, c'est un chauffage au bois déchiqueté, qui chauffe donc tous les volumes, tous les locaux, mais qui chauffe aussi l'eau chaude, sanitaire. Vous savez qu'un gymnase utilise beaucoup d'eau chaude. Donc c'est une grosse chaudière quand même, bois avec un silo.
Le silo, il fait une 60aine de mètres cubes.
Oui.
Je crois qu'il était prévu pour fonctionner 15 jours à plein régime.
Et puis, il faut préciser aussi que le bâtiment est très bien isolé. D'abord, le petit bâtiment, la petite salle, comme on dit, elle est toute en ossature bois, avec isolation, bardage intérieur-extérieur, tout en bois. Et la grande salle, à part les piliers, les deux murs pignons, c'est tout en bois aussi.
Alors, ce choix architectural, à quelle vocation? Pourquoi vous choisissez plutôt une structure bois?
D'abord, c'est un produit tout à fait naturel. Et il faut préciser que les bardages que vous voyez, c'est du bardage qui n'est pas traité. Il n'y a aucun traitement chimique ni contre
nature.
Les insectes. C'est nature. Voilà. Et puis ça donne un climat intérieur dans le bâtiment.
L'acoustique.
L'acoustique. Oui, l'acoustique, sauf dans le couloir. D'ailleurs, c'est des entreprises pas locales, mais régionales, qui ont tout réalisé ici. C'est des entreprises. Le charpentier, il est de Saint-Péry. Vous avez le menuisier qui est de Oust.
Et le bois déchiqueté qui fait fonctionner la chaudière vient de Dorel, une entreprise locale qui fournit aussi. Donc il y a un circuit qui est court.
Obligé, ça fait partie de vos missions de traiter avec le corps artisan. Quel est un peu votre constat général? Vous disiez que vous étiez assez satisfait finalement des entreprises qui sont venues, elles connaissaient leur boulot.
D'une manière générale, il est nécessaire que les entreprises forment leur personnel. Vous savez, pour nous c'est exactement le même problème, il a fallu qu'on se forme aussi. Parce que comme je vous disais, j'ai travaillé depuis 35 ans dans ce métier, donc au début on n'isolait pas du tout comme on l'isole aujourd'hui. C'est de plus en plus pointu. Donc il a fallu aussi qu'on se fasse des formations, bien sûr, dans le QEB, qualité environnementale du bâtiment, on appelle ça.
Finalement, il faut aussi que trois communes tombent d'accord sur un ensemble de choses. Alors à différents niveaux, puisqu'il faut que les maires soient d'accord, il faut que les commissions qui pilotent ce projet-là tombent d'accord. Enfin, il y a différents...
Ouais. En fait, c'est la communauté de communes qui était pour... Parce que honnêtement, moi j'avais réfléchi, parce que en tant que maire Pirot, il y avait un modèle pour le basket, etc. Mais c'était pas concevable qu'une commune puisse le porter, parce que c'est quand même un projet lourd. Financièrement, donc, en termes de rentrée d'argent, on n'a pas beaucoup. Hein. Mm-hmm. Plus grosse rentrée d'argent, c'est les impôts que paye chaque habitant. Hein. Les habitations, taxes foncières, quoi. Il faut pas se leurrer non plus. Nous, à Pirot, c'est ça. Hein. On n'a pas des budgets faramineux, et voilà. Donc c'est compliqué pour créer tout ça.
Après, si les gens veulent des services aussi.
Après, comment j'ai ça dans mon côté professionnel, mais ça s'adapte aussi aux communes. C'est-à-dire que si on ne monte pas de projet, on ne fera jamais rien. Quoi. Et puis l'argent, on le dépensera quand même, etc. Si on monte des projets, on va chercher de l'argent. C'est toujours un plus pour le territoire. Mm-hmm. En fait, il faut toujours essayer d'aller de l'avant. Alors après, faire attention de ne pas trop être endetté quand même. Mais au moins, au plus il y a de services, au plus... on rend service aux habitants, c'est notre rôle quand même, en tant qu'élu, il me semble. Mm-hmm.
Que les gens aient plaisir de vivre dans leur commune. Je
crois que c'est bien. Ils restent.
Biotope,